Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Bonjour Pierre Rosanvallon. Bonjour. Vous êtes professeur au Collège de France où vous occupez la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique. Je l'ai dit, vous revenez de Pologne. Quelle est la situation aujourd'hui dans ce pays selon vous ?
Eh bien, en Pologne, le gouvernement de M. Kaczyński est un gouvernement qui se dirige à grande vitesse vers une forme de démocratie autoritaire. Alors les deux termes peuvent paraître inconciliables, mais démocratie il y a, puisque le gouvernement a été élu, c'est une majorité sortie des urnes, mais autoritaire, parce qu'aujourd'hui on voit le procureur général de la République, qui est également ministre de la Justice, vouloir faire un procès au président du Conseil constitutionnel, car celui-ci met en garde contre les dérives du pouvoir. Donc nous voyons aujourd'hui que dans certains cas, c'est peut-être de cette façon-là qu'il faut analyser le cas français, et d'autres cas en Europe, il y a des formes de démocratie qui pataugent, qui piétinent, mais il y a aussi beaucoup de démocratie qui régressent. Et aujourd'hui, cette régression démocratique est tout de même une caractéristique qui devient forte en Europe. Il y a le gouvernement de M. Orban en Hongrie, il y a les évolutions préoccupantes en Slovaquie, en République tchèque. Donc n'oublions jamais, quand nous parlons de démocratie, qu'il faut considérer les difficultés, les balbutiements, les piétinements que nous voyons, mais aussi les formes d'autoritarisme, on peut dire d'illibéralisme. Aujourd'hui, on le vend en poupe un peu partout dans le monde.
La question qu'on peut se poser, Pierre Rosanvallon, consiste à savoir si précisément le stade autoritaire est le stade auquel on aboutit après le piétinement. C'est la crainte peut-être que l'on peut formuler, votre avis à ce sujet.
Bien sûr, ça peut être une possibilité lorsqu'il y a une sorte de désarroi qui se généralise. Eh bien, la tentation de s'en remettre, je dirais, à un pouvoir fort qui passe au-delà des urnes est quelque chose qui existe. On le voit aujourd'hui dans un pays comme la Russie, c'est en faisant le pari, grosso modo, de mettre l'accent sur ce qui est la force et l'autorité, et bien qu'un pays se console du fait qu'il n'arrive pas à gérer ses divisions internes, les questions de ses inégalités et les problèmes de politique économique. L'autoritarisme est la réponse aux impuissances internes dans bien des cas.
Alors ce risque existe-t-il aujourd'hui en France, selon vous ?
Non, je ne pense pas que l'autoritarisme, au contraire, on pourrait dire que ce qui semble menacer la démocratie française, c'est justement, au contraire, la difficulté de prendre des décisions, la difficulté d'avancer. Et c'est pour cela que j'employais le terme de piétinement.
Cela fait maintenant 4 ans que François Hollande est à l'Élysée. Votre bilan de ces 4 années, Pierre Rosanvallon ?
Alors, on peut faire un double bilan. On peut faire un bilan sur, je dirais, les résultats concrets, les politiques menées, les réussites ou des échecs dans ce domaine. Mais aussi un bilan, pourrait-on dire, de méthode. Et de ce point de vue-là, le bilan de la méthode me semble un bilan assez sombre. C'est-à-dire que il y a une difficulté à organiser la délibération publique, une difficulté à organiser la négociation, une difficulté aussi d'un certain point de vue tout simplement à décider. On peut parler tout simplement, je dirais, de mal gouvernement. Et sur ce plan de la méthode, je suis frappé de voir qu'il n'y a pas eu de tentative de faire avancer les choses. Car aller plus loin, je dirais, dans la démocratisation du débat public, dans la démocratisation des institutions, est quelque chose qui ne coûte pas cher. La croissance, elle ne se décrète pas d'un coup, mais le bon gouvernement, on peut le mettre en œuvre à moindre coût.
C'est ce que vous évoquiez dans votre ouvrage intitulé justement « Le bon gouvernement ». Vous débutiez par cette phrase « Nos régimes peuvent être dits démocratiques, mais nous ne sommes pas gouvernés démocratiquement ». Pourtant, François Hollande est plutôt dans ce que vous considérez comme étant le piétinement, en tout cas une absence de décision véritable à cet égard, quant au processus démocratique.
Oui, mais si vous regardez, prenons des choses très, très précises. Il y a eu des avancées, par exemple, avec la mise en place de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, à la suite du scandale Cahuzac. Là, véritablement, il y a un instrument de moralisation de la vie publique qui est indéniable et positif. Mais en termes d'organisation, je dirais, de la transparence du fonctionnement des institutions, en termes de leur contrôle, tout un ensemble de fonctions démocratiques qui étaient traditionnellement données au Parlement, eh bien, ne sont plus occupées parce que le Parlement, il n'a que deux rôles, appuyer ou critiquer le gouvernement. Et donc, toutes ces fonctions de délibération, ces fonctions de contrôle, ces fonctions d'évaluation, eh bien, elles se sont peu à peu dissoutes et évaporées. Et la solution, ce serait évidemment non pas de reparlementariser les choses, mais la solution, ce serait de développer une nouvelle génération d'institutions politiques, me semble-t-il.
Vous avez signé la pétition en faveur d'une primaire à gauche. Pourquoi, selon vous, Pierre-Rosan Verlon, faut-il une primaire à gauche ?
La primaire, moi je n'ai pas la religion de la primaire en soi, mais nous sommes dans une situation qui paraît tellement bloquée, tellement difficile, que l'introduction d'une primaire instaure au moins un élément de discussion publique, un débat dans la société. Et de cela, nous en avons besoin. Il y a tout de même une forme d'anémie démocratique aujourd'hui, et pour sortir de cette anémie démocratique, la primaire est une façon d'essayer de le faire, et en ce sens-là, sans en faire, je dirais, la recette miracle, elle a, me semble-t-il, des effets positifs.
Mais le risque, c'est peut-être de favoriser les hommes, ou en tout cas le débat sur les hommes, plutôt que le débat sur les idées, pour la primaire.
Les deux vont tout de même de pair, hein, parce que quand on choisit les personnes, il est bien évident que si l'on voit que s'opposer à la primaire Macron et Valls, par exemple, derrière les personnes, il y aurait aussi des éléments de contenu, c'est évident.
Si vous deviez justement décrire la manière dont ces deux personnages, Manuel Valls et Emmanuel Macron, pourraient s'opposer, chez Manuel Valls, par exemple, qu'y a-t-il comme politique qui se dessine selon vous, puisque dans une récente interview au Nouvel Observateur, vous avez fait une distinction entre les positions de François Hollande et celles de Manuel Valls, Pierre-Rosan Verlon?
Je pense que Manuel Valls l'avait annoncé lui-même il y a quelque temps, que les élections de 2017, je crois que c'est la formule qu'il avait employée, se joueraient autour des questions de l'identité, se joueraient autour des questions de l'autorité la chose publique. Et là, je pense que lui, il a vraiment enfourché ce cheval. Alors, ce cheval se décline de différentes façons. Il se décline dans une certaine interprétation de la laïcité. Il se décline sur aussi une certaine vision de la sécurité. Il se décline également dans une forme de discours, qui est un discours martial, qui n'est pas du tout un discours dans lequel les notions de négociation, les notions de délibération rentrent en jeu. C'est un État qui veut être un État fort d'une certaine façon. Alors qu'effectivement, François Hollande, lui, semble vouloir jouer la carte davantage, d'être un président de l'écoute, de la conciliation. Y réussit-il ? Ça, c'est tout à fait autre chose.
Laquelle de ces deux gauches vous est la plus proche ?
Moi, je ne me ressens pas proche, évidemment, d'une gauche de l'autorité et d'une gauche de l'autorité. Mais en même temps, je souhaite une gauche qui, tout en dialoguant, tout en étant capable de mener la délibération publique, est une gauche qui, premièrement, fasse avancer la démocratie. Et je pense que rendre nos institutions, les mécanismes de fonctionnement plus de discussion sociale, plus démocratique, c'est aussi envisager autrement la possibilité des réformes.
Mais comment gouverner la France après les attentats, puisque la position de Manuel Valls s'éclaire évidemment en grande partie à la suite des attentats, Pierre-Rosan Verlon?
Nous savons bien que le choc du terrorisme est quelque chose qui n'est pas derrière nous, que ça peut être encore devant nous. Mais nous avons vu aussi à quel point, au mois de janvier de l'année dernière, et plus encore certainement, à partir du 13 novembre, combien les formes de solidarité collective, comment les formes d'unité même, étaient importantes. Et cette unité, comment la produire ? Si la société a l'impression que l'on n'avance pas dans la vie économique, dans la vie sociale. Donc, une société plus capable de faire des réformes, une société plus capable de négocier, est aussi une société qui sera plus forte pour faire face au terrorisme.
Plus d'unité pour certains, notamment pour Manuel Valls, ça veut dire plus de laïcité. Est-ce également votre sentiment ?
Tout dépend de la définition qu'on donne de la laïcité. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une grande confusion autour du terme de laïcité. C'est qu'historiquement, la laïcité définit le rapport de l'État aux religions. Et donc, c'est la définition d'une non-intervention de l'État dans le domaine des religions.
D'une non-reconnaissance.
De non-reconnaissance des religions. Donc, c'est les deux lignes de la loi de 1905. Aujourd'hui, une tentation qui est tout à fait différente, c'est de définir la laïcité comme une forme de relation sociale entre les individus. Et autant, il me semble décisif de défendre cette conception première de la laïcité qui était celle de 1905 et qui était mise en place dans le contexte, on le sait, tout de même d'une église catholique surpuissante à ce moment-là. Et en revanche, il faut avoir une attitude beaucoup plus libérale pour définir les relations entre individus. Il n'y a pas l'idée d'une laïcité comme modèle obligatoire des relations sociales, comme modèle obligatoire de la du comportement dans la sphère publique, me semble là hautement discutable.
Est-ce que cela signifie aussi que la démocratie, en tout cas la démocratie sous sa forme actuelle, ne parvient plus à fournir un grand récit qui puisse permettre aux jeunes de se projeter dans l'avenir, qui expliquerait que certains, par exemple, choisissent des voies radicales, choisissent le djihad, par exemple?
Il est certain que toute l'idée moderne de la démocratie a reposé sur des visions relativement fortes et claires de ce que voulait dire l'émancipation. La démocratie, c'est une société émancipée des individus. C'est une société émancipée, je dirais, des puissances de domination. Et au moment de la Révolution française, au moment de la Révolution américaine, il y avait une vision claire de cette idée de l'émancipation. Elle s'est reformulée après, dans l'idéal républicain ou dans l'idéal social-démocrate. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte dans lequel il y a un épuisement, si je puis dire, de cette idée d'émancipation et pour lui donner figure aujourd'hui. Sauf peut-être dans quelques domaines dans lesquels il y a des sortes d'évidence et de majorité possible. Regardez la différence entre ce qu'a été le débat sur le mariage pour tous et celui sur la loi El Khomri. Le mariage pour tous, il y a des oppositions très tranchées. Il y a eu énormément de monde dans les rues. Mais le débat a réussi à être en quelque sorte simplifié. Simplifié de telle façon qu'il est apparu démocratique et simple de le régler de façon arithmétique par un vote au Parlement. Alors que dans le cas de la loi El Khomri, on n'est pas parce que la loi est trop obèse, on a voulu mettre trop de choses dans ce projet de loi. Et donc, on n'a pas réussi, avec une loi trop obèse, avec un projet de loi trop obèse, à avoir cette espèce de clarté du débat et de simplification qui fasse qu'une résolution arithmétique apparaisse démocratique et normale.
Vous avez évoqué la gauche selon Manuel Valls, selon François Hollande, selon Emmanuel Macron. Que vous inspire cette gauche-là, Pierre-Rose en Vallon?
Tel que l'on peut analyser et observer, je dirais, sa tentative de lancer un parti qui sera un parti de type centriste, disons, ça a certainement sa place dans le paysage politique, mais je ne vois pas cette perspective redéfinir, justement, comme vous le disiez, une forme de grand récit. Je ne vois pas cette perspective définir un nouvel âge de l'émancipation. Je le vois définir les conditions d'une adaptation, je dirais, à la société libérale moderne, d'un modèle français qui serait jugé un petit peu bloqué et archaïque. Mais ça n'est pas, en quelque sorte, une perspective qui me semble susceptible de mobiliser les masses véritablement.
Mais alors du coup, pour vous, où peut se situer l'alternative à gauche, notamment dans la perspective de la primaire?
Je pense que la primaire, je ne sais pas quelles sont les personnalités qui se mettront en avant, et qu'une personnalité inconnue apparaissent, je ne le pense pas. Les personnes qui seront dans la bataille des primaires, nous les connaissons toutes d'une certaine façon. Mais là, la question est de faire la différence entre ce qu'elle va être le débat sur une personne et puis la tâche de longue haleine, qui est tout de même de reconstruire une gauche en mille morceaux.
Et à cet égard, la primaire à droite, est-ce qu'elle fournit un exemple selon vous, ou au contraire un contre-modèle?
Elle fournit un bon exemple des débats et des différences de position qu'il y a à l'intérieur de la droite aujourd'hui, effectivement.
Est-ce qu'elle vous donne envie de vous positionner par rapport à ces différents débats ou à ces différents thèmes?
Je suis assez réticent vis-à-vis de tout ce qu'on peut appeler la tentation d'une gauche juppée. qui pour conjurer peut-être les malheurs et les difficultés de la primaire à gauche, par précaution, choisirait dès le premier tour, je dirais, de voter pour Alain Juppé. C'est une stratégie qui me paraît un peu risquée et finalement faire preuve d'un état un petit peu de démission peut-être trop prononcé.
Pourquoi ? Parce que pour vous, la gauche Juppé, c'est un oxymore ?
Il me semble tout de même que Alain Juppé est tout de même un leader de la droite républicaine, mais il est de la vraie droite, de la bonne droite, qu'il faut respecter en tant que bonne et vraie droite, mais ne pas se raconter d'histoire. À faire des comparaisons entre le moins pire, le moins pire n'est pas vraiment une bonne façon de choisir une personne.
Pierre Rosanvallon, le bon gouvernement publié au Seuil, on vous retrouve à 8h15 pour continuer à évoquer l'actualité de la démocratie. Il est 7h55 sur France Culture.